is our advice to you.
Salut tout le monde, bienvenue dans la maison de disques, épisode 50, c'est un anniversaire. Salut Baptiste.
Salut Antoine.
Salut aux auditrices et aux auditeurs. Un anniversaire qu'on a souhaité fêter tous les deux, Baptiste, avec un label dont on parle depuis très 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 longtemps sur cette antenne de Canal B dans l'émission de la maison de disques, un label indépendant qui se nomme K Records.
Et ouais.
Qui est
K Records.
K, ouais, ouais, on va
oui,
le dire.
On peut dire que, on peut dire à la française.
À la française. En tout cas, K Records, qui est un label qui t'est cher à toi, Baptiste. Moi, je connais un tout petit peu moins, on va dire, parce que du coup, je suis de la génération où j'ai découvert un peu tardivement certains artistes, puisque bah, tout simplement, c'est un label qui a été créé avant notre date de naissance, quand même.
Et ouais, ouais, 82, c'est ça. 82. Et puis, bah, la tête pensante un peu de ce label, c'est Calvin Johnson, que, bah, qui est quand même un peu le maître de l'anti-folk et de la musique un peu do-it-yourself à l'américaine. Et du coup, bah, c'était membre de Beat Happening, mais d'autres groupes aussi.
Il en a eu plein quand même des projets, bah, et ouais, il continue d'en avoir, du coup.
Oui, carrément. Même si c'est un peu moins quand même, moins régulier. Enfin, il y a moins de sorties quand même que,
y a moins de
qu'auparavant.
Sorties. Tout à fait. Un tout petit mot quand même sur, bon, voilà, ville, Olympia, l'État de Washington aux États-Unis. Les débuts 1982, lui a fait très jeune, à partir de 15 ou 16 ans, il animait une émission sur la radio campus de là-bas, où il valorisait pas mal la scène locale. Et puis il écrivait aussi en parallèle dans un fanzine qui s'appelait Sub Pop et qui est devenu un label derrière. Ça, c'est vraiment les tout débuts de K Records. D'ailleurs, la station de radio, elle s'appelait Chaos FM. Donc, est-ce que le K est venu de là?
Je crois que c'est ça.
Il y a plusieurs. Il me semble qu'il y a plusieurs mythes qui tournent autour de ça. Mais en tout cas, ça a été dit plusieurs fois. Voilà. Et après, il y a plusieurs solutions qui ont été données. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que Kurt Cobain était un copain et que du coup, ils avaient pris aussi le cas de Kurt Cobain. Enfin,
mais je crois que Kurt Cobain a découvert K Records après coup, parce que du coup, en 82, il avait genre 10 ans, je crois.
C'est
enfin, genre 10-15 ans, quoi. Donc
ça colle pas trop.
Mais c'est vrai que pour Kurt Cobain, c'était un label. C'était genre. Un peu sa philosophie, quoi. Il voulait rester, c'était un peu le côté je reste un peu dans mon enfance en me tatouant K Records sur le bras. Bon, après il est parti un peu en cacahuète, quoi, parce que du coup c'est devenu un peu trop gros Nirvana, mais
et puis surtout finalement il fait partie de ceux qui ont jamais enregistré ne serait-ce qu'un petit 45 tours, tu vois. Ouais. Il aurait pu aller dans le fameux studio.
Courtney Love l'a fait, je crois, sur un 45 tours. Ouais. mais c'est tout. Mais c'est ce que disait Calvin, parce qu'on l'a posé quelques questions par mail. Il disait qu'il a créé ce label-là pour parce qu'il y avait un manque, en fait, dans la ville Olympia, parce qu'il y avait beaucoup une grosse effervescence musicale et il manquait un label pour sortir tout ça. Après, on va le voir, on va en parler après, mais il a fait le rôle de distributeur aussi de plusieurs disques, plusieurs sorties et d'autres labels, du coup, qui n'avaient pas de distributeur, où du coup il envoyait des cassettes
à la main
du coup aux quatre coins du monde.
Ouais.
Et c'était du coup à l'époque où il n'y avait pas Internet, hein, donc c'était nécessaire.
En générique, on a écouté Supreme Cool Beginnings, qui était vraiment les tout débuts et le tout premier groupe de Calvin Johnson quand ils étaient très jeunes, et une des premières sorties du label. Et là, Baptiste, on va enchaîner avec Beat Happening.
Avec Beat Happening, les deux premiers, enfin voilà, faisant partie des deux premiers singles. On va s'écouter un morceau très court qui s'appelle Honeypot, qui est sorti sur le 7 pouces 3T Breakfast. Et aussi, on va juste après, ça va être What's Important, qui est sorti sur l'EP Our Secret What's Important en 84. Donc les deux sont des sorties de 84. On peut retrouver ces deux morceaux sur la compilation Beat Happening 83-85, qui est une compile qui est sortie en 85, à pas confondre avec le premier album de Beat Happening, qui est exactement la même pochette, sauf que c'est pas écrit 83-85 dessus. Et d'ailleurs, je vois sur Tidal ou sur les internets, ils se trompent.
Ils se trompent. Ouais, j'ai vu aussi. Je m'en suis rendu
compte. Donc voilà. Donc on va s'écouter ces deux morceaux-là de Beat Happening.
Honey pot, I love you a lot. Honey pot, You say you're not. You got five other guys saying love me do. You know what they want from you. Me, all I ask is love and honey pot. My love you can trust, honey pot. I love you a lot, honey pot. You say you're not, but when you're alone and feeling bad, I'm the one who will always have a place for you to turn to in trouble, and honey pot. I'll always love you, honey pot. I love you a lot, honey pot. You say you're not, oh honey pot. I can tell by your eyes, you're as wild as I am shy. So take me by the hand and lead me to that land where everything is honey and sweet and sugar pie. Honey pot, I love you a lot. Honey pot, please say you will. Please say you will. Please say you will.
C'était le morceau Week of Fire qui est sorti en 1985 sur une cassette, donc le groupe s'appelle Pell Mell. La cassette se nomme 4 Years We Stood Clearly as One Things. En fait, ça a été sorti en deux temps, c'est un peu bizarre. Du coup, le groupe Pell Mell, qui est un groupe de rock instrumental des années, qui a officié dans les années 80-90, qui nous vient de Portland. Il y a pas mal de groupes d'ailleurs qui viennent de Portland sur K Records.
C'est juste à côté d'Olympia.
Exactement. Donc du coup, c'est sorti dans un premier temps, donc sur une double cassette. Il y avait une partie, donc là c'était la partie studio et il y avait une partie live de la cassette. Et en fait, c'est ressorti un petit peu plus tard, en tout cas ce morceau-là est ressorti plus tard, sur un autre album, donc en 1990, c'était quand même pas juste après, sur un album qui s'appelait The Bumper Crop. Et après, ce groupe en fait a signé sur un label californien, un label de Long Beach qui s'appelle SST Records, qui a disparu depuis récemment, que je ne connaissais pas. Voilà ce qu'on peut dire sur Pell Mell. On enchaîne par Orbital.
Juste pour dire, on fait trois émissions,
oui,
hein,
voilà,
sur K Records, voilà, parce qu'on a pas mal de choses à vous faire passer quand même.
Tout à fait.
Et trois émissions, c'est pas trop pour tout ça.
Et là, on est sur la période 1982-1995. La seconde, on fera 1995-2005. Et ensuite, on fera 2005-2023. Un découpage un peu hasardeux et pas très respectueux des années, mais la dernière période des années 2010-2020 a été moins fructueuse pour K Records, donc on s'est autorisé à rallonger la dernière période.
C'est ça. Donc voilà, on va se réécouter un morceau de Beat Happening qui est sorti sur le premier LP. En fait, juste pour parler de Beat Happening, donc c'est le groupe de Calvin Johnson, mais pas que. Il y a aussi Ezer Lewis et Brett Lunsford. Donc c'est un trio, on peut appeler ça de twee-pop lofi. Ce qu'il y a, c'est que quand ils ont commencé, ils étaient vraiment au lycée, hein, quand ils ont commencé à jouer de la musique ensemble, et ils savaient vraiment pas jouer de la musique. D'ailleurs, du coup, les premières chansons, du coup, ils utilisent une machine Ecoplex qui ajoute de l'écho à la guitare de Brett. Et bah, c'est dans le but, du coup, de masquer son manque d'expérience guitaristique.
Le côté lofi est bien là.
Donc voilà, et en fait, ce qu'il y a, c'est que le groupe a commencé à faire ses premiers concerts à Tokyo, hein, parce que du coup, ils étaient en vacances là-bas, un échange d'étudiants en fait lié au lycée du coup d'Olympia. Et du coup, ils enregistrent un premier EP là-bas qui s'appelle Sweetie Breakfast. On a écouté ça tout à l'heure. Mais ensuite, du coup, voilà, ça s'emballe un peu. Ils sortent leur premier LP juste pour, parce qu'après, on n'en repassera plus de Beat Happening, pour fermer un peu la parenthèse. Beat Happening, c'est un groupe quand même qui compte beaucoup pour la musique un peu indépendante. Les cinq albums qui sont sortis sont vraiment des albums assez mythiques, notamment le premier Beat Happening, Jamboree, Black Candy, surtout ces trois-là, les trois premiers. Ils sont sortis de 85 à 92, le groupe a mis fin, du coup, c'était terminé en 93, donc voilà, ça fait 8 ans de... pas très long, hein,
finalement. C'est pas long, mais il y a pas mal de groupes sur K Records qui ont eu des petites existences...
C'est ça, carrément. Les albums, après, sont tous sortis chez K Records, mais sont ressortis, notamment les albums un peu mythiques. Jamboree est ressorti après sur Rough Trade, Black Candy et You're Turned Me On et Dreamy sont sortis sur Sub Pop après. Donc voilà, il y a une petite logique. Donc on va s'écouter là le morceau vraiment mythique qui a été repris et qui a été. Il y a plusieurs artistes qui ont dit que c'était un des albums les plus importants du coup de la pop musique, qui s'appelle Indian Summer, sur le LP de 88, Jamboree.
Breakfast in cemetery, boy tasting wild cherry, touch girl apple blossom, just a boy playing possum. We'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back. What is that cheerful sound? Rain falling on the ground. We'll wear a jolly crown. Buckle up, we're wayward bound. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. And go a separate way. Thank you.
you say, let's stroll down Martin Way, pick plums, abandoned farm, who let norms come to harm? We'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, then go a separate ways. Cover me with rain, walk me down the lane, I'll drink from your drain. We will never change, no matter what they raise. We'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, and go a separate way. Motorbike to cemetery, picnic on wild berries, French toast with molasses, croquet and baked Alaskas. We'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer. Cover me with rain.
à l'instant le morceau Different Drums de The Pastels, qui était une reprise, puisque c'est pas de ce morceau-là, c'est de Michael Nesmith. C'est un cover qui date de 1964. The Pastels, c'est le seul disque en fait hein, qui sortiront sur le label K Records, puisque c'est de ce label-là qu'on vous parle ce soir. Le single 45 tours, il est sorti en 1990 et ça fait partie, Baptiste, je pense que tu l'as vu à plusieurs reprises, ça fait partie de la fameuse série des singles, alors comment ils appellent ça, International Single Pop, je crois.
Oui, c'est International Pop Underground.
Exactement, International Pop Underground, et donc du coup c'est toute une série de singles. Et les Pastels à l'époque, alors je sais pas ce qu'ils étaient venus, je pense qu'ils étaient venus aux États-Unis et ils en ont profité, parce que c'est quand même un groupe qui vient de Glasgow, hein, The Pastels, qui a été créé en 1981, qui est aujourd'hui reconnu comme un acteur, enfin comme un groupe clé de la scène musicale indépendante écossaise et britannique en général, qui aujourd'hui, est-ce qu'ils officient ou pas, on ne sait pas. Leur dernier album qui est sorti sur Domino Records, il date de 2013, ils en ont sorti 8 en tout entre 87 et 2013, et j'avoue qu'aujourd'hui on ne sait pas trop. Alors leur site est actif, il n'y a pas de single de sortie, il me semble pas qu'ils aient joué en concert récemment, donc voilà. Mais en tout cas c'est un groupe assez mythique, dont d'ailleurs on avait parlé ici avec Julian quand on avait fait l'émission sur Safe is the Rain Records, où il disait si The Pastels accepte de que je sorte un de leur prochain disque, j'arrête le label derrière ça, je finirai là-dessus. Donc voilà, donc petite dédicace à Julian sur ce morceau. On va enchaîner, Baptiste, avec
le groupe Mechanormal, qui est un groupe, du coup un duo de Vancouver, du coup qui est pas loin. Vancouver c'est le Canada, mais c'est tout près du coup de l'État de Washington, donc d'Olympia. C'est Gene Smith et David Lester. Le groupe, il a commencé en 84. Tiens, j'ai pas capté, mais notre ami du coup de Kérosène s'appelle David, mais il se surnomme Lester.
Lester, donc, oui.
Et du coup, le gars de Mechanormal s'appelle David Lester.
Ah, ok.
Étonnant. Et donc, du coup, plusieurs albums qui sont sortis. Il y a une palanquée d'albums, plutôt, même une vingtaine d'albums. Le groupe existe toujours. Ils sortent encore des choses. Ils ont sorti des choses sur Kill Rockstar, qui est vraiment un label aussi d'Olympia, qui est un peu le label un peu
concurrent. J'ai compris en lisant quelque chose.
Ouais. Et aussi, du coup, sur Matador. Ils ont sorti aussi trois albums sur Matador. Donc là, on va s'écouter une de leurs premières sorties, et on va s'écouter le morceau qui s'appelle Flashlight, qui est sorti sur le LP de 92, Dovetail.
They're moving fast from the deep.
Vous êtes toujours à l'écoute de la maison de disques sur Canal B et on est toujours en train de vous parler du fameux label Car Records, qui est le label d'Olympia, le label de Calvin Johnson, mythique depuis les années 82. On vient d'écouter à l'instant un groupe mythique aussi de ce label et du mouvement Twip Up, le groupe Tiger Trap. Le morceau s'appelait Puzzle Pieces, c'est sorti en 93 sur le seul et unique album de Tiger Trap. Tiger Trap, ça fait partie de... C'était un quatuor de quatre femmes, donc Angela Lloyd, Rose Mailberg, Heather Dunn et Jen Brown, qui étaient quatre amies de lycée. Elles ont enregistré donc cet unique album sur Car Records. Leur nom, il vient d'un dessin animé qui était le dessin animé Calvin et Hobbes, voilà, et avec, on a cité tout à l'heure Beat Happening, Lois, il y a aussi Tullycraft, qui sont vraiment les groupes emblématiques du lancement du Twip Up. Voilà, après, quand on va chercher un peu sur comment on définirait en fait le mouvement Twip Up et ce genre-là, en gros, ce qui caractérise un peu tout ça, c'est un peu le côté, comment dire, simplicité, innocence perdue, à la fois dans l'écriture des morceaux, enfin dans les paroles, mais aussi dans la musique, avec pour la scène en tout cas twip hop féminine à l'époque un certain côté désenchantement, enfin en gros voilà, il y avait une désexualisation de la femme sur scène grâce à ce mouvement là et qui a eu surtout une cote de popularité dans les années 90. Aujourd'hui je sais pas s'il y a beaucoup de groupes encore twip hop qui existent, il y en a forcément, mais
si je dirais The Red Peaks and Purples, voilà, par exemple, tout ce qui passe sur le label Summerland Records, c'est un peu
Janine's aussi,
oui, un peu Janine's, un peu, ouais, carrément. Bah, du coup, c'est une bonne. On peut enchaîner comme ça parce que du coup, le label un peu emblématique de la Twip Hop, c'est Sarah Records, le label anglais. Et du coup, un des groupes phares de Sarah Records, donc Sarah Records qui a terminé en 95, il me semble, enfin, ce qui a duré du coup 15 ans, enfin, l'aventure Sarah Records. Et bah, c'est le groupe Evenly, du coup, qui est le groupe un peu mythique. Notre confrère de Lollipop passe souvent des morceaux toujours de Sarah Records, c'est un de ses labels fétiches. Sarah Records qui est aussi un peu, qui a aussi son cousin en Espagne qui est Elephant Records. Je sais pas si tu connais ce label là.
C'est Sarah Records,
du coup de la pop vraiment très très naïve et assez bien produite en général, enfin je trouve. Et donc du coup on va s'écouter un morceau, donc Evenly qui est un groupe emblématique qui a duré de 89 à 96 avec quatre membres, Amelia Fletcher, Matthew Fletcher, Peter Momchilov et Robert Percy. On va s'écouter du coup un morceau, du coup un album qui est sorti sur Sarah Records, mais qui est ressorti je pense pour des questions de distribution aux États-Unis notamment. Qui est sorti du coup sur Car Records, et l'album c'est Evenly versus Satan, le LP de 93, et on va s'écouter le morceau It's You.
I do. song is inspired by a song, a show I saw a couple years ago. I don't know if the man of the hour is here or not, but this is for him.
Vous êtes toujours à l'écoute de la maison de disques sur Canal B et on vient d'écouter à l'instant le morceau Jad Fair Drives Woman Wild qui est sorti en 1992 sur un live donc, qui se nommait International Pop Underground Convention et le groupe c'est The Spinans. The Spinans en fait qui est un groupe à l'époque qui n'avait pas encore sorti de disque et qui a participé à ce fameux festival qui a été enregistré à Olympia en fait, enfin, qui a eu lieu en fait, c'est une convention d'une semaine sur lequel on a pu retrouver énormément de groupes plus ou moins connus à l'époque. Il y a eu alors Fugazi par exemple, on a eu des groupes comme The Pastels qui sont venus et en fait il y a un live qui a été enregistré, il y a des captations qui ont été faites toute la semaine et ça donne un espèce de double album qui est sorti sur K Records et qui est super chouette. Voilà, et The Spinans après en fait avoir c'était un peu un tremplin pour eux cette convention puisque derrière en fait ils ont signé sur au début deux singles sur le label indépendant IMP Records et en fait ils sont tout de suite partis sur le label Sub Pop en 92 et ensuite ils ont sorti finalement trois disques sur Sub Pop et depuis ça s'est splitté du coup le groupe a fini et une des membres du groupe Spinans Baptiste donc qui s'appelle Rebecca Gates elle sort des albums en solo et elle a sorti deux albums en solo sur One Two EQ.
Ah, ok.
Récemment, on n'a pas passé de morceaux d'elle quand on a fait le. Non. Voilà. Et un autre membre qui s'appelait Scott Plouffe, a été le batteur pendant quelques années de Built to Spilt. Voilà. Après, ils ont eu chacun leur carrière à droite et à gauche. Je sais qu'il y a eu aussi un autre, le bassiste qui a joué avec Stephen McMus and the Jicks. Voilà. Et la seule chose que j'ai retenue derrière, c'est qu'a priori, quand ils ont commencé à être un peu, à avoir un peu de renommée, ils ont fui tout ça. Et c'est ce qui fait que ça leur a fait un petit peu peur et que du coup, voilà, leur carrière a jamais plus décollé que ça parce qu'ils ne le souhaitaient pas, tout simplement.
Ok, bon, on va enchaîner avec Beck.
Alors lui, c'est l'inverse.
Le lui, choix. Par contre, sa carrière a un peu explosé. Beck, qui est né le 8 juillet 70 et qui du coup a grandi, enfin qui est né du coup à Los Angeles, mais après du coup a déménagé assez vite à New York, où du coup il est devenu assez proche du mouvement anti-folk. C'est comme ça qu'il a commencé à faire de la musique dans des bars ou dans des autobus apparemment. Il a commencé à faire ça. Après du coup, forcément, il était attiré, je pense, par le fait d'enregistrer ça lors de sa première sortie chez Car Records, dans le studio de Calvin. Et donc c'est ce qu'il fit à ce moment-là. Et donc la première sortie réelle du coup de Beck, c'était cet album-là, qui en fait est l'album One Foot in the Grave en 94. La même année, du coup, juste après, il sort Mellow Gold avec Loser, et là, du coup, sa carrière explose. Et puis après, on n'en parle plus. Il a sorti plein d'albums sur des majors, notamment.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il est sur des majors depuis.
Voilà, maintenant il fait la première partie de U2, tout ça, on est sur un autre sujet.
Mais c'est fou hein, quand même de partir d'un garage, d'un studio dans une cuisine à arriver à ça. En fait, je trouve aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des parcours comme ça, en fait,
non.
Je pense.
Donc, non, c'est clair. En tout cas, le premier album, One Foot in the Grave, est vraiment un super album qui a été ressorti en 2006, je crois. Avant, il existait que en CD, mais du coup, sorti par Car Records en quelques exemplaires, donc c'était vraiment introuvable. Et du coup, l'album maintenant se trouve en CD comme en vinyle. En vinyle, il reste toujours assez rare, mais en tout cas, il se retrouve. Donc là, on va s'écouter le morceau. Donc, c'est un album qui comprend pas mal de morceaux et des morceaux qui sont courts. Et on va se. Donc, il y a des morceaux aussi où il y a Calvin qui chante avec Beck. Là, on va s'écouter le morceau qui s'appelle Your Love is Weird, donc sur One Foot in the Grave en 94.
The sun is down when I'm around in this town. I wear the frown 'cause your love is weird. Your love is weird. Your love is weird. Your love is I feel the strain. I use a cane to walk the lane of wonderful pain. 'Cause your love is weird. Your love is weird. Your love is weird. Your love is weird. I live in fear. I have no beer. I sleep in jails and everything fails. 'Cause your love is weird. Your love is weird. Your love is weird. Your love is weird. I have no cash. I have no stash. I keep the trash and clean it for you. 'Cause your love is weird. 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 Your love is weird.
C'était le morceau Perfect Shot qui est sorti en 1994 sur le disque This Are Not False Colors, qui est un disque mythique du groupe Link, L-Y-N-C. Je dis mythique parce que c'est un groupe de post-hardcore. Alors moi, j'écoute pas beaucoup de post-hardcore, mais c'est un groupe des années 90 qui est originaire d'Olympia et qui n'a sorti qu'un seul album, en fait. Le groupe s'est formé en 92 de mémoire, enfin entre 90 et 92, composé de Sam Jane, James Bertram et du batteur David Schneider. En fait, c'est un C'est un espèce de disque un peu mythique qui est rentré dans, tu sais, il y a des disques comme ça, on sait pas trop pourquoi en fait, voilà, c'était un peu peut-être le début de la scène post-hardcore de l'Olympia. Ils ont été comparés à plusieurs fois à des groupes comme Fugazi, Unwood ou encore Hush Harbor. En fait, le groupe s'est dissous en 94, donc 3-4 années et puis s'en va. Ils ont eu une actualité puisque ce disque a été très longtemps difficile à trouver, et le label Suicide Squeeze a refait un pressage cette année là, du coup en 2 ou 3 exemplaires, enfin je crois qu'il y a 3 couleurs différentes, et a priori ils ont aussi glissé des infos sur le groupe, donc si jamais ça vous a plu et que le reste de l'album vous plaît, je pense que c'est trouvable en vinyle à nouveau, ça ne l'était plus pendant très longtemps. Ce premier épisode Baptiste sur le label, le premier volet on va dire, qui nous a emmené des années 82 aux années 95, qui était quand même la période de lancement, la période de on démarre sur des cassettes pour K-Records, et puis ils ont commencé à sortir plutôt des vinyles, ce qui coûte relativement un peu plus cher et qui est un peu plus difficile à mettre en place. Voilà, on enchaînera sur le 51e épisode sur la période plutôt 1995-2005, qui est une période très faste également pour le label.
Clairement.
Avec plein de choses à vous faire écouter. Et on va finir du coup en musique avec... est-ce que tu connaissais toi, Baptiste, Modest Mouse ?
Ouais.
Avec le morceau Duck Up du groupe Modest Mouse, qui est sorti d'abord en 94 sur un 45 tours, un espèce de single. Alors je crois qu'il y avait 3 morceaux dessus qui se nomment... Donc le disque se nommait Blue Cadet 3, Do You Connect ? Et en fait, il y a eu un espèce de truc autour du groupe, et finalement ça s'est sorti après que dans les années 2000 en fait, le disque le LP qui reconstituait plusieurs EP je crois et des démos est sorti beaucoup plus tard, donc il y a eu un peu un effet à retardement du succès de ce groupe là. Moi j'aime particulièrement ce morceau Dugs Up, et donc on finit là dessus et on s'est fait des gros bisous, et on vous fait des gros bisous,
bisous,
à bientôt, des bisous,
bisous.
Ciao.